I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, c'est Julien Pereira.
Salut à tous, c'est Cyril Morin.
On est mercredi, on va parler de Mercato. Bienvenue dans Mercredi Mercato, votre émission sur les transferts que vous retrouvez tout au long de l'été, à la fois sur les meilleures plateformes de podcast, aussi sur eurosport.fr en ce qui concerne les meilleurs moments de cette émission. Cyril, comment ça va cette semaine?
Bah écoute, ça va, je suis un peu déçu que tu n'entames pas cette émission par un petit chant parce que je te soupçonne d'avoir été à la fête de la musique hier soir et d'avoir voulu chanter un peu de Sarro, mais bon, voilà, on va pas.
Donc on n'a plus de secret entre nous, on ne peut plus rien garder en privé, c'est ça?
Donc on va expliquer aux auditeurs. Hier, évidemment, c'était la fête de la musique et donc dans la ville de Julien, c'était l'excellent Ben l'Oncle Saul qui passait et on n'a pas de vidéo, mais on pourra dire que Julien s'est déhanché sur le son de Ben l'Oncle Sarl. Voilà.
Déhanché, qui me fait penser d'ailleurs au fils d'un collègue que l'on salue. Et qu'on ne citera pas son prénom parce qu'il ne le mérite pas. Cyril, de quoi va-t-on parler
nos petites histoires, Julien, nos petites histoires intéressent assez peu les internautes. On va parler du club qui continue de faire parler sur le marché, c'est évidemment le Paris Saint-Germain. Sur le dossier de l'entraîneur, on y voit beaucoup, beaucoup, beaucoup plus clair puisque Christophe Galtier est en passe de devenir le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain. Et donc, sur le mercato, on commence aussi à y voir plus net. On fera tout simplement le tour des rumeurs sur le PSG. On essaiera de décortiquer les pistes de Luis Campos et on verra qu'il y a une petite logique qui s'impose.
Je rappelle que c'était un sommaire, Cyril, c'était pas encore le sujet.
Ah oui, mais moi, tu sais, je suis bavard, tu me connais.
Deuxième sujet, on évoquera Romelu Lukaku, qui est en passe de retourner à l'Inter un an après avoir rejoint Chelsea pour un montant très très élevé. On se posera une question assez simple, mais dont la réponse est peut-être un petit peu plus compliquée. Est-ce qu'il est le plus gros flop de la Première Ligue?
Le dernier sujet, ce sera autour de Manchester United et notamment de Cristiano Ronaldo. Il est inquiet de la situation des Mancuniens. A-t-il raison? On débattra de tout ça et on terminera l'émission, Julien. Nous aussi, on est inquiet, comme chaque semaine. C'est évidemment le traditionnel Merca Quiz de Quentin Guichard. Un partout cet été entre Morin et Pereira. Il y en a un des deux qui va prendre l'avantage aujourd'hui. Ça va être sanglant. Ça, vous pouvez en être sûr, ça va être sanglant.
Et évidemment, on rappelle que nos auditeurs peuvent jouer avec nous et qu'ils peuvent nous dire s'ils ont trouvé le nom du joueur en question avant nous, en nous retrouvant sur les réseaux sociaux, par exemple.
Exactement. Eh bien, on est parti, Julien.
Allons-y.
On va entamer cette émission donc avec le Paris Saint-Germain et Christophe Galtier qui devrait être nommé dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, entraîneur du Paris Saint-Germain. L'attelage Galtier-Campos recomposé. Et donc, on y voit fatalement beaucoup plus clair dans le mercato parisien. Alors, on va essayer de décortiquer toutes les pistes explorées par Luis Campos, le nouveau conseiller du football du Paris Saint-Germain. On ne va pas tout faire en détail, mais on va essayer de comprendre la logique qui se dessine derrière. On va commencer, Julien, si tu veux bien, avec les attaquants. Il y a trois noms qui se dégagent jusqu'à présent. Robert Lewandowski, Gianluca Scamacca et Hugo Ekitike. Trois profils différents. 33 ans, 23 ans, 20 ans, des tarifs finalement assez proches, 40 millions pour Lewandowski avec ce contrat qui court jusqu'en 2023, 35 pour Scamacca et ça négocie encore un petit peu. Et Ekitike, bon bah là c'est un peu la question, ça dépendra un petit peu de Newcastle, mais on est aussi dans ces eaux-là entre 30 et 40 millions d'euros. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'attaquant, Julien? De quoi Paris a besoin?
De quoi Paris? Alors, je vais commencer par évoquer Ekitike parce que c'est le nom qui visiblement attire le plus de clubs ces derniers jours. On évoque Newcastle, on a aussi évoqué le Real Madrid, même si a priori ça a été démenti. Ekitike, c'est entre guillemets le profil qui probablement plaît le plus à Campos parce que c'est le joueur à fort potentiel, c'est le joueur formé en France aussi, à Reims. Et donc, c'est le joueur qui coche, entre guillemets, toutes les cases habituelles de Luis Campos. Maintenant, pour donner mon avis, Cyril, sur le joueur, j'ai pas l'impression que ce soit en attaque que le PSG ait le plus besoin d'aller chercher ces joueurs-là, c'est évident. Et surtout, prendre des jeunes, oui, il faut aussi leur donner de la place. Alors, estimer qu'il y aura un roulement, c'est évident. En attaque, j'ai l'impression que ça tournera beaucoup moins parce qu'évidemment, il y a un attaquant qui va jouer probablement tous les matchs. S'il le peut, c'est Kylian Mbappé.
La logique, elle est différente au milieu de terrain, Julien, avec trois pistes qui se dégagent. Vitinha, tout proche de rejoindre le Paris Saint-Germain et d'être la première recrue de l'été. Alors, ça bloque encore un petit peu ces dernières heures, notamment de la presse portugaise, du côté de la presse portugaise, sur la façon dont le Paris Saint-Germain devra payer les 40 millions d'euros de clause libératoire, si je ne dis pas de bêtises. Mais Vitinha sera un joueur du Paris Saint-Germain. Renato Sanchez se rapproche également. On parle d'un accord proche pour 25 millions d'euros pour fausser et pour surtout dépasser l'AC Milan qui était sur sa piste.
Et il y a le cas plusieurs mois.
Exactement. Et il y a le cas Kefren Thuram, le dernier nom qui est un petit peu sorti. Pareil, il y a quand même. C'est différent dans le sens où on n'est pas aussi tapageur qu'avec Lewandowski, mais Vitinha, Renato Sanchez, ça colle à des besoins du Paris Saint-Germain. Kefren Thuram, on est un peu dans la même logique qu'Ekitike. C'est un joueur qui n'est pas encore complètement fini, mais qui a des arguments pour lui, à savoir le fait d'être formé en France. On rappellera aussi que pour les listes en Ligue des Champions, c'est important. Donc voilà, toi qui suis un petit peu le football portugais, j'imagine que Vitinha et Renato Sanchez, ça te parle pas mal pour ce Paris Saint-Germain-là.
Oui, parce qu'en fait, c'est un petit peu la même réflexion, tu le disais, pour Ekitike, pour Thuram. C'est qu'on sent que ce sont des joueurs qui, même s'ils sont jeunes, même s'ils ont un gros potentiel, alors Renato Sanchez a 24 ans, donc il est tout à fait très jeune, mais il a encore du potentiel. Ouais. Ce sont des joueurs qui peuvent apporter quelque chose immédiatement au Paris Saint-Germain, qui peuvent répondre à la fois en Ligue 1, aussi en Ligue des Champions. C'est pour ça que je différencie même Vitinha, qu'on connaît un peu moins en France, mais qui, pour moi, est un complément qui peut être excellent aux côtés de Marco Verratti. C'est pour ça que je différencie ces deux classes-là. On sent qu'il y a des joueurs qui peuvent apporter immédiatement, d'autres pour qui ce sera plus long, qui seront plutôt des joueurs de rotation. Et là, effectivement, sur un mercato comme ça, où le PSG construit, même si le PSG construit un petit peu tous les ans, malheureusement, on a l'impression que Christophe Galtier aura plutôt besoin de joueurs qui seront opérationnels le plus tôt possible. Sur ces joueurs-là, sur Vitinha, Renato, ce qui me plaît, moi, dans l'idée, c'est que on voit que c'est une réflexion globale, à la fois sur le potentiel, à la fois sur la valeur, à la fois du joueur aussi potentiel à une potentielle revente, et c'est aussi une réflexion tactique. Renato Sanchez, on le rappelle, dans le 4-4-2 de Galtier, il est capable d'évoluer à droite, même si lui préfère jouer au milieu. Galtier l'avait utilisé à droite à Lille, donc il y a une vraie réflexion globale. On ne coche pas juste des noms parce qu'ils plaisent, parce qu'ils sont talentueux, on réfléchit aussi économiquement et évidemment techniquement.
Et bah, c'est un petit peu pareil en défense centrale. On a identifié chez Luis Campos un point faible, c'est ce poste de défenseur gauche, sans que ce soit Kimpembe qui soit complètement visé, mais en tout cas, il y a peut-être moyen d'avoir mieux à ce poste-là. Et donc, on pense à Skriniar qui est la priorité du mercato parisien. Ça négocie encore sec avec l'Inter qui demande près de 70 millions d'euros. Il y a d'autres noms qui ont surgi, Botman notamment, en cas d'échec de la piste Skriniar, ou Malo Gusto pour suppléer Hakimi dans le couloir droit. En fait, moi, ce que j'aime dans toutes les pistes qu'on vient d'évoquer, Julien, c'est qu'hormis Lewandowski, tout fait sens. On a l'impression que Luis Campos, et c'est aussi la façon dont il fonctionne, il a dressé plusieurs listes, plusieurs noms, et chaque liste a sa propre logique. Quand vous regardez les premiers choix qu'on vient d'égrener, donc Lewandowski en attaque, Vitinha au milieu et Skriniar en défense centrale, c'est des joueurs qui sont amenés à jouer en équipe première immédiatement, à être des titulaires quasiment indiscutables, même si pour Vitinha, il y a aussi le cas Verratti qui pose question. Mais en tout cas, c'est des joueurs qui apportent instantanément à l'équipe première. Ensuite, dans les autres noms, Renato Sanchez, Scamacca, Botman, on est plus sur une logique de rotation. Donc des joueurs qui sont assez jeunes, qui ont encore une marge de progression importante, qui peuvent devenir potentiellement des numéro 1 dans les années qui viennent, mais qui ont déjà un niveau intéressant pour apporter dans la rotation du PSG et qui peuvent encore grandir. Et la dernière catégorie, c'est les prospects français. La France est le plus grand marché au monde. On ne va pas se mentir sur le vivier de talent. Et donc, Gusto, Thuram et Ekitike, on est dans cette logique-là. Et dans la logique qui a expliqué très bien Nasser El Khelaifi dans les différentes interviews qu'il a données mardi, c'est de trouver le nouveau Mbappé, donc de trouver des joueurs français attachés et qui comprennent ce que c'est le Paris Saint-Germain aujourd'hui parce qu'ils vivent dans l'écosystème français. Donc au fond, tout est logique. Il n'y a que Lewandowski que j'ai du mal à m'expliquer, Julien. On a l'impression que Lewandowski, c'est surtout l'opportunité qui se présente, c'est-à-dire qu'il a un contrat qui se termine en 2023, qu'il est sur le départ et que donc Paris pourra en profiter. Mais Lewandowski, c'est tout ce que Paris ne doit pas faire et ça va complètement à l'encontre de la doctrine El Khelaifi 2022, à savoir moins de bling-bling et plus de sueur.
Oui, ce qui est marrant, c'est que Lewandowski, finalement, c'est ce qui rattache le PSG à son mercato de l'été dernier. C'est-à-dire, on voit une opportunité, on essaye de la saisir. Et je pense que c'est justement ce qui permettra de jauger de l'intelligence du mercato du PSG. Parce que là, on a cité une dizaine, une douzaine de noms. Évidemment que le PSG ne pourra pas acheter tous ses joueurs. Et donc, il faudra faire des choix.
Ouais. Exactement. De toute façon, ce n'est pas la façon. Encore une fois, il faut rappeler aux gens qui nous écoutent que Campos dresse des listes. Donc, pour chaque poste, il y a 5 noms ou 6 noms. Et à partir de là, ils font les premiers contacts, ils demandent l'avis à l'entraîneur, etc. Donc, on est encore dans cette phase-là. Et tous les noms qui sont là, c'est des noms qui ont fait partie de listes. Mais ça ne veut pas forcément dire que Paris va passer la vitesse supérieure pour Khéphren Thuram, par exemple.
Oui, c'est intéressant. Ça sera intéressant de savoir comment le PSG va prioriser son mercato, parce que est-ce qu'on préfère aller chercher un Lewandowski qui effectivement est l'un des plus grands buteurs en Europe, mais sacrifier peut-être un Skriniar qui est probablement plus important pour ce que le PSG a besoin d'apporter, d'avoir. Ça va être intéressant, et l'autre chose qui pour moi va être intéressante, parce que là effectivement on trouve que tout ça est cohérent, on est plutôt d'accord sur ça Cyril, ce qui sera important et le facteur sur lequel on va aussi juger ce mercato, c'est évidemment sur les ventes, parce que le PSG a théoriquement des moyens illimités, en réalité c'est un petit peu plus compliqué que ça, et qui doit encore se limiter sur son investissement cet été. Et donc ça sera intéressant de voir comment il va être capable de dégraisser son effectif pour ensuite tout simplement compléter le puzzle avec les joueurs qu'on a évoqués. Pour moi, juger les pistes, c'est une bonne chose, ça donne déjà une bonne idée de ce que le PSG veut faire et de la cohérence qu'il y a autour de ce nouveau projet, mais pour avoir un avis définitif, il faudra attendre les 2 mois qui vont arriver, et surtout regarder la liste des départs.
On rappellera que le Paris Saint-Germain avait budgété 80 millions de budget pour ce mercato d'été 2022, dont une bonne partie est déjà prise par le transfert définitif de Nuno Mendes comme arrière-gauche. Donc on descend déjà presque à 50 millions d'euros. Alors il y a des ventes, tu en parlais Julien, et Paris espère pouvoir se débarrasser de certains joueurs et gagner un petit peu d'argent. Mais ça explique notamment peut-être aussi pourquoi Paris, par exemple, ne court pas derrière un Frankie de Jong, à la différence de Manchester United qui a besoin d'un milieu de terrain aussi. Paris est plus rationnel dans sa façon d'aborder le marché, et plutôt d'aller chercher un joueur par poste qui coûte 70 millions d'euros, ils vont faire un gros investissement, probablement sur Skriniar, et être peut-être un petit peu plus raisonnable sur les autres postes et rajouter du volume et des profils moins tapageurs que des beaux noms qui excitent un petit peu tout le monde. Donc je pense qu'il faut aussi avoir ça en tête au moment de parler du mercato parisien. Il y a aussi une chose, moi, qui m'intéresse de voir, notamment de la part de Luis Campos, c'est est-ce qu'il va réussir à sortir de son schéma habituel, de toutes les pistes qu'on vient d'analyser. On est quand même sur un réseau portugais ou un réseau un peu lillois, dans le sens où c'est des gens avec qui il a déjà travaillé, qu'il connaît très bien. Il va être aussi jugé sur sa capacité à apporter des noms que personne ne voyait vraiment. Et je repense, peut-être des joueurs à la Osimhen, des grosses révélations que personne ne connaît au moment où ils arrivent au Paris Saint-Germain et qui peuvent grandir avec le club. Et ça aussi, moi, j'attends aussi un petit peu de ça de Luis Campos, même si ce n'est pas exactement le projet parisien. Je pense que ça peut s'inscrire sur la longue durée au Paris Saint-Germain. Et reprenez l'histoire de Marco Verratti. Au départ, Marco Verratti, c'est un prospect qui est devenu un des joueurs les plus importants du projet parisien. Donc, ça peut aussi compter.
Je crois qu'on a été complet sur le sujet, mon cher Cyril.
J'espère. En tout cas, on rappellera aussi peut-être que tous les noms qu'on a donnés peuvent permettre d'affaiblir d'autres candidats. Je pense notamment au cas Lewandowski qui se dirige plutôt en tout cas vers le Barça, ou qui a envie de se diriger vers le Barça, et que l'apparition du Paris Saint-Germain dans le dossier n'est pas anodin de ce côté-là. À mon avis, c'est aussi pour un petit jeu d'agent, pour faire monter un petit peu la sauce autour du cas Robert Lewandowski.
Et précisons une dernière chose, c'est qu'on imagine quand même que le Bayern aura un petit peu plus de mal à vendre Lewandowski au Paris Saint-Germain qu'à d'autres clubs. Quand on connaît la relation entre les deux clubs, on se dit qu'il y a quand même peu de chances que tout cela aboutisse.
On parlait d'un buteur, Robert Lewandowski. On va passer à un homme en mal de but. C'est Romelu Lukaku qui se dirige ces dernières heures vers un retour à l'Inter Milan, Julien. Un an seulement après son arrivée et son retour même triomphal à Chelsea. Il y a un an, il sortait d'une saison absolument incroyable avec l'Inter Milan. C'était un des meilleurs attaquants au monde, n'ayons pas peur des mots. Un an plus tard, il est dans une crise de confiance assez nette. Il n'a marqué que 15 buts cette saison. Alors, ce n'est pas non plus catastrophique. Mais
pour un joueur de sa dimension.
Pour un joueur de sa dimension et l'investissement consenti par Chelsea, nous fait nous demander, Julien, si le retour de Lukaku n'est pas finalement le plus gros flop de l'histoire de la Première Ligue, de l'histoire récente en tout cas de la Première Ligue, avec les sommes qu'on connaît.
Bah, pour mettre en perspective, je pense qu'on peut déjà afficher les valeurs de transfert des plus gros transferts justement de Première Ligue. Jack Grealish, c'était aussi la saison dernière, qui avait coûté 117,5 millions d'euros à Manchester City. Et juste derrière, il y a Lukaku, justement, qu'on évoque à 113 millions d'euros. Alors vous allez me dire, cette saison, un an après, Grealish n'est toujours pas une franche réussite, et on sera bien d'accord. Lukaku, pour moi, c'est encore un cas à part, et c'est ce qui me fait répondre oui à la question du flop. Parce que quand on achète Lukaku, on n'achète pas seulement un grand attaquant, on achète aussi un joueur qui est censé être un leader et qui est censé finalement s'adapter à toutes les situations. Moi, ce qui me dérange, entre guillemets, dans la carrière de Lukaku, c'est pas du tout son talent, c'est pas du tout ses statistiques qui sont absolument monumentales. C'est qu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a eu un petit grain de sable ou à chaque fois que ça s'est un petit peu compliqué, il a lâché prise. Ça a été le cas encore une fois cette saison avec Chelsea, où dès janvier, il fait une interview pour dire que son départ de l'Inter n'aurait jamais dû se passer comme il s'est passé. Et donc, ça démontre que finalement, quand tout ne se passe pas comme Lukaku aimerait que ça se passe, et ben ça y est, il lâche prise. Et quand on met 117 millions d'euros sur un joueur comme lui, c'est pas du tout ce qu'on attendait de lui. Donc pour moi, oui, Lukaku à côté de Grealish, sachant que Grealish, c'est pas tout à fait une cause perdue encore, même s'il ouais. vit des jours un petit peu compliqués en Angleterre, il y a encore un espoir qui s'adapte, qui comprenne enfin quels sont les dogmes de Guardiola. Et pour prendre le reste de la liste, on peut évoquer Pogba, qui avait coûté 105 millions d'euros, qui va quitter Manchester United cette année. On peut parler de Maguire, on peut parler de Sancho, mais pour moi, tous ces joueurs donc, qui sont des mancuniens, le problème est autant collectif qu'individuel, même si on peut faire du cas par cas, mais pour moi, le problème des grosses stars, des grands joueurs qui ont été achetés par Manchester City à des sommes complètement folles, il est plutôt collectif qu'individuel. Et donc Lukaku, pour moi, c'est un cas à part, parce que justement, on attendait beaucoup plus sur le terrain, évidemment, mais c'est un sujet aussi en dehors sur son attitude et sur sa manière d'accepter sa situation, finalement, et de vivre sa situation.
Ce qui est terrible pour Lukaku, c'est que finalement, il n'a aucune excuse. Tu as parlé de Jack Grealish, son prix, il n'est pas dépendant de ça, puisque c'est un jeune anglais transféré entre deux clubs anglais, donc on sait que ça fait fatalement grimper l'addition. Pour les mancuniens, tu as parlé de la situation de Manchester United et je pense que tu as raison. Pour Lukaku, il n'y a aucune de ces raisons-là qui est valable. Lukaku, quand il arrive l'année dernière, il arrive dans l'équipe championne d'Europe, rappelons-le quand même, avec peut-être le technicien à l'été 2021, du coup, le plus en vogue des derniers mois, Thomas Tuchel, qui a réussi quand même des choses intéressantes avec le Paris Saint-Germain et qui, en 6 mois, a permis à Chelsea d'aller au bout en Ligue des Champions. Il arrive, il a 28 ans. C'est plus exactement le perdreau de l'année. Il a une expérience internationale très importante avec la Belgique puisqu'il a commencé très tôt. Et je me demande si ce n'est pas déjà le meilleur buteur si c'est le meilleur buteur de la sélection belge. Pire, il a et l'expérience du club, c'est-à-dire qu'il est déjà passé par Chelsea, et l'expérience de la Première Ligue. Donc parfois, je prends le cas Pépé qui ne figure pas dans la liste mais qui a coûté 80 millions d'euros. Bon, oui, c'est un flop évidemment parce que Arsenal l'a payé très très cher et il n'a pas su s'adapter à la Première Ligue et aux exigences de cette Première Ligue-là. Lukaku, tout ça, il le connaissait et il avait par le passé réussi à s'adapter à ça, même si ses passages étaient contrastés, notamment à Manchester United. Il avait déjà fait ses preuves dans ce championnat-là. Donc pour moi, il y a aucune excuse. Et le pire, je suis d'accord avec toi, c'est que finalement, c'est devenu une évidence que Lukaku n'allait pas rester à Chelsea au bout de 4 mois. À partir du moment où il donne cette interview à Sky Italia, avec ces déclats-là, bah, ça pose un souci sur, comme tu disais, le fait qu'il retourne rapidement sur sa zone de confort et sur le fait qu'il n'ait pas une volonté de s'imposer et de devenir la figure dominante de Chelsea et de porter Chelsea sur ses épaules pour l'amener de nouveau au sommet. Donc, moi, ça me pose un vrai problème quand on sait l'investissement qu'a fait Chelsea, l'effort qu'a fait Chelsea pour le faire revenir, alors que l'Inter, certes, était vendeur et certes, avait besoin de liquidité, mais l'Inter aurait pu aussi le garder.
L'effort qu'a fait Tuchel aussi.
L'effort
pour essayer de l'intégrer tactiquement.
Exactement, exactement. Je ne sais pas, ça m'interroge sur sa personnalité, sur sa place qu'il occupera à la fin de sa carrière, même s'il est encore jeune dans l'histoire du football. Mais en tout cas, ce transfert-là un des plus gros flops de l'histoire de la Première Ligue et peut-être le plus gros étant donné les attentes qui l'entouraient. 113 millions d'euros, on attend beaucoup plus de lui. Et un petit pied, Julien, c'est un peu la continuité des échecs de Chelsea aussi sur ce poste d'attaquant de pointe. À chaque fois qu'ils ont pris des joueurs un peu intermédiaires, je pense évidemment à Didier Drogba, c'est-à-dire des joueurs qui n'étaient pas encore des superstars, ça a plutôt très bien marché, Diego Costa, etc. Mais avec Lukaku, reviennent en tête Fernando Torres, reviennent en tête Shevchenko, reviennent en tête aussi un peu Balak. Donc voilà. Ils ne sont pas au même niveau que Lukaku pour moi parce que la déception, elle est immense. Et encore une fois, c'est presque dommageable de voir Lukaku retomber dans sa zone de confort et revenir à l'Inter parce qu'on sait ce qui va se passer à l'Inter. Évidemment, il va être bon. Évidemment, il va marquer des buts. Évidemment, l'Inter va devenir une bonne équipe européenne. Mais j'aurais aimé le voir s'entêter un petit peu plus en Première Ligue et devenir un des attaquants les plus emblématiques de Première Ligue parce qu'il a toutes les qualités pour ça.
Il y a quelque chose quand même qui sera intéressant pour moi à voir à son retour à l'Inter, c'est que finalement, Lukaku, depuis qu'il est un joueur de cette dimension, bah, ça s'est presque jamais bien passé avec ses entraîneurs. Ça s'était pas bien passé avec Mourinho, ça s'était moins bien passé, alors pas très bien passé avec Solskjaer non plus, ça s'est pas bien passé avec Tuchel, ça s'est très bien passé avec Conte. Là, il va revenir à l'Inter, où évidemment Conte n'est plus là. Donc ça sera intéressant de voir quelle relation il va être capable de nouer avec son nouvel entraîneur, et surtout comment il va s'adapter, parce que finalement l'Inter qu'il a quitté il y a un an, c'est plus tout à fait l'Inter qu'il va retrouver cette année. Donc j'ai quand même tendance à penser que quand ça se passe mal plusieurs fois, c'est pas uniquement de la faute de l'environnement, c'est pas uniquement de la faute des autres, et que bah, le problème il est peut-être aussi chez le joueur, même si encore une fois on remet pas du tout en cause le talent et surtout la force de l'attaquant qu'il est. Moi j'attends de voir quand même à l'Inter parce que ça permettra d'avoir plus de réponses sur sa capacité à s'adapter et à faire des concessions aussi de son côté à lui, parce que à Chelsea cette année ça s'est pas bien passé. Et finalement on se rend compte que les entraîneurs avec lesquels ça s'est mieux passé, c'est Roberto Martinez qu'il a retrouvé en Belgique, et il était à Everton, c'était pas encore un joueur, l'un des meilleurs attaquants du monde, même s'il marquait beaucoup de buts. Donc j'attends de voir, et je suis pas tout à fait du même avis que toi sur le fait que ça se passera aussi bien, ça se passera bien, j'en ai aucun doute, mais aussi bien que sur ces deux saisons à l'Inter où il avait marqué plus de 20 buts à chaque fois en Serie A, j'en suis pas certain, j'attends de voir.
Pour être tout à fait complet sur le sujet, Julien, on va expliquer que c'est un prêt payant pour le retour de Lukaku à l'Inter. Je crois que c'est 8 millions plus 2 de bonus, et que Lukaku a fait un effort financier important pour revenir à Milan avec un salaire à 7 millions d'euros, je crois, plutôt que 10 dans les alentours.
C'est 8 au lieu de 12, il me semble, si je dis pas de
bêtises. Voilà, on est sur ces chiffres-là, pardon pour le manque de précision. Tu n'es pas forcément serein pour Lukaku à l'Inter.
Très belle transition.
Oui, bien sûr. Julien, es-tu serein pour la première saison d'Eric Ten Hag à la tête de Manchester United ? Toi, je ne sais pas, mais je sais que CR7 s'interroge, puisque c'est As qui nous explique que le Portugais est un petit peu inquiet de la tournure des événements du côté de Old Trafford, notamment du manque de renforts pour l'instant à Manchester United. Combiné au fait que Manchester City a recruté quand même Erling Haaland et que Liverpool a recruté Darwin Núñez. Donc, est-ce que CR7 a des raisons d'être inquiet, Julien ? Peut-être pour appuyer là-dessus, on va se pencher sur les pistes explorées par Manchester United ces dernières heures sur le marché. Il y a une piste prioritaire, elle s'appelle Frankie de Jong. Il y a des négociations avec le FC Barcelone qui a besoin d'argent. Ça ne m'étonnerait pas que ça aille au bout dans ce transfert-là, même si De Jong a déjà expliqué qu'il aimerait rester au FC Barcelone. À mon avis, il peut être vite sacrifié par le Barça. On parle d'un transfert entre 70 et 90 millions d'euros. Et finalement, ce qui est marrant à voir dans toutes les pistes de Manchester United, c'est que toutes sont quasiment estampillées Ajax Amsterdam, avec Anthony qui se rapproche de United, Eriksen qui est libre, et Lisandro Martinez, défenseur central de l'Ajax également. Donc voilà, est-ce que CR7 a raison d'être inquiet en voyant ce mercato qui se dessine made in Ajax par Ten Hag, Julien ?
Alors, nous, de notre côté, on peut trouver ça plutôt emballant. En tout cas, il y a une cohérence qui n'a pas du tout été le cas ces dernières années à Manchester United. Là, au moins, il y a des pistes qui sont vraisemblablement validées par un nouvel entraîneur. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Ça, c'est plutôt positif. Le problème, c'est que ce projet-là, il ne se mettra pas en route en quelques semaines ni quelques mois. Que les résultats, si résultats il doit y avoir, prendront plusieurs saisons avant d'arriver. Et que pendant ce temps-là, l'écart qui sépare Manchester United de Liverpool et de Manchester City va encore s'agrandir. Le problème de Ronaldo, c'est qu'il est Ronaldo et que lui, son objectif, surtout au moment de sa carrière, c'est qu'il veut obtenir des résultats immédiats. Ouais. Et ce n'est pas à Manchester qu'il les aura, les résultats immédiats. Mais le problème, c'est que s'inquiéter de ça, il fallait s'en inquiéter dès la saison dernière, parce que ce constat-là, on pouvait déjà le faire la saison dernière. Donc, ce que fait Manchester United, c'est cohérent. En revanche, c'est sûr que ça risque de moyennement satisfaire Ronaldo, même si il est le premier à dire, et il l'avait déjà dit avec Rangnick, qu'il faut laisser du temps à l'entraîneur, que ça va prendre du temps de construire et qu'il faut être patient. Le problème, c'est que la patience dans les mots, on l'entend chez Ronaldo. Sur le terrain, c'est un petit peu plus nuancé, on dira.
En fait, ce qui est terrible pour Ronaldo, c'est que l'année dernière, il a caché un manque de projet évident chez Manchester United. Il y a eu Soldier. Rapidement, on a vu que ça ne collerait plus. Donc, on a appelé Rangnick un peu en panique. Mais l'effectif de Manchester United, de toute façon, est une limite, mais terrible, aux ambitions de Manchester. Tout simplement parce qu'il a été construit un peu n'importe comment, en surpayant beaucoup de joueurs, en leur offrant des salaires qui ne correspondent pas à ce qu'ils valent réellement sur le marché. Et donc, Manchester United se retrouve avec une palanquée de joueurs qui ne servent pas à grand-chose et qui sont presque invendables. Et là, la comparaison avec le Paris Saint-Germain, elle se tient parce que l'effectif de United est aussi bancal que celui du PSG dans ses backups, entre guillemets, dans ses choix de deuxième ou troisième homme. Ça, c'est une première chose. Et quand vous voyez le cas, par exemple, d'Anthony Martial, qui est un joueur bourré de talent, mais qui a du mal à trouver une porte de sortie parce que ses émoluments effraient beaucoup de monde, ça vous dit à quel point United est dans une impasse de ce côté-là. On a un nouveau projet qui arrive, qui est clairement identifié avec Ten Hag. Je suis d'accord avec toi, Julien, c'est plutôt emballant. Et on a envie, enfin, que United mette le sportif au cœur de son raisonnement, ce qui n'a plus été le cas depuis des saisons. Pour faire ça, il faut absolument donner les pleins pouvoirs à Ten Hag et donc lui donner la possibilité d'agir et de choisir les joueurs qu'il veut. Alors, il y a quand même, moi, une petite limite, c'est que faut que Ten Hag fasse attention à ne pas croire que Manchester United, c'est l'Ajax et à ne prendre que des joueurs issus de l'Ajax Amsterdam. Il n'empêche que, par exemple, un De Jong à Manchester United, quand je vois ce qui se passe au milieu de terrain à United depuis plusieurs années, je trouve ça plutôt tentant.
Encore plus cet été avec le départ de Pogba, notamment.
Exactement. Et même, il y a eu un nombre de matchs mais incalculable, avec un manque de créativité mais terrible de la part de Manchester United, notamment à la relance où c'était. Mais pour le nombre de matchs que Ronaldo a traversé la saison passée en touchant moins de 30 ballons, il y en a quelques-uns quand même. Et souvent, c'était des ballons un peu casse-croûte. Débrouille-toi avec la balle et fais ce que tu veux.
Des ballons casse-croûte.
Des ballons casse-croûte, je ne sais pas si ça existe complètement, mais on va essayer d'inventer cette expression aujourd'hui. Donc, ouais, l'effectif de Manchester United est une limite et il faut du temps de toute façon pour combler l'écart avec Liverpool et Manchester City. Donc, oui, il a raison d'être inquiet et c'est un peu à son corps défendant parce qu'encore une fois, c'est le piège Manchester United qui est en train de se refermer sur lui. Et on rappellera ici aussi qu'il y a une nouvelle équipe dirigeante. Et ça aussi, ça peut influer. On a vu notamment le nouveau PDG, si je ne dis pas de bêtises, de Manchester United, filmé à son insu dans un bar qui discutait avec des supporters pour exposer la vision un petit peu de Manchester United, où il expliquait que ces dernières années, United avait fait cramer la caisse et avait fait un petit peu n'importe quoi dans les transferts et qu'il était hors de question de faire ça. Oui, pour donner des renforts à Ten Hag, mais des renforts raisonnés. Et donc, ça veut dire quoi? Il n'y aura pas de très, très gros noms à Old Trafford cet été, autre que De Jong, qui est un beau nom, mais il n'y aura pas de star comme l'espère Cristiano Ronaldo. Donc, il a raison d'être inquiet, mais comme tu le disais, Julien, il aurait peut-être fallu s'inquiéter l'année passée au moment de signer parce que le projet de United était déjà assez peu lisible. Là, au moins, il y a une cohérence et il y a une vision et il faut absolument y croire.
Rappelons quand même que le mercato a ouvert ses portes il y a une semaine et demie. Alors certes, si Manchester United attend des grands joueurs, on imagine qu'ils ont commencé à discuter il y a plusieurs mois. Quand même, il reste du temps et surtout, moi, je vois quand même une autre limite. Même si effectivement, on annonce un grand changement à Manchester United, on rappelle que Rangnick était arrivé pour préparer le terrain du futur entraîneur, en l'occurrence Ten Hag, que visiblement ça ne s'est pas passé comme lui l'avait imaginé, parce qu'il était censé rester au sein de l'organigramme en tant que conseiller sportif, un petit peu comme ce que fait Campos d'ailleurs au Paris Saint-Germain. Au final, il est parti pour reprendre la sélection autrichienne. Au début, on disait non, mais vous inquiétez pas, il va prendre la sélection, mais il va quand même rester conseiller auprès du club. Finalement, pas du tout, il a complètement quitté le club. Donc j'ai tendance à penser que s'il a agi de la sorte, c'est aussi parce qu'il est convaincu que derrière, il n'y aura pas les changements qu'il espérait. Moi, c'est ça qui m'inquiète pour Ten Hag. J'ai aucun doute sur sa qualité d'entraîneur.
Exactement. Tu parles de changement, excuse-moi Julien, mais quand on regarde l'équipe type possible de Manchester United la saison prochaine, on y a ajouté De Jong et Anthony qui pourraient être des recrues. Malgré tout, les noms sont les mêmes. Il n'y a que Van de Beek qui va être enfin sorti du bois un petit peu, mais le reste de l'effectif, et notamment derrière, ce sera les mêmes joueurs de toute façon.
Et ça reste limité. Et chez vous, vous pouvez faire un jeu très simple. Mettez ces joueurs-là en concurrence avec l'équipe type de Liverpool et de Manchester City et vous verrez qu'à la fin, il ne restera pas grand monde, malheureusement, de Manchester United. Donc,
c'est dur. Même là, j'étais en train de le faire en même temps.
Donc, encore une fois, Ten Hag, oui, je crois en sa qualité d'entraîneur. Oui, je crois que sa philosophie peut permettre justement ce que tu disais, de réinsuffler quelque chose de vraiment positif à Manchester United, parce que vraiment, on s'est ennuyé profondément sur certains matchs de Manchester United la saison dernière. Le problème, c'est qu'il faut lui donner plein pouvoir, qu'il faut lui laisser du temps et qu'il faut lui accorder énormément de confiance. Et je ne suis pas certain que Manchester United en soit capable.
Ben voilà, Julien, sur Cristiano Ronaldo. Ouais, ben, on lui souhaite beaucoup courage à Cristiano, mais à Ten Hag surtout, parce qu'il va falloir changer beaucoup de choses à Manchester United. Je crois que
c'est le moment d'en redouter, je crois.
Ouais, c'est l'heure est arrivée. Alors,
sachez quand même, on peut le dire aussi à nos auditeurs, qu'on ne dort pas de la nuit, de nuit avant l'enregistrement de cette émission, parce que le Mercacuiz est le centre de notre vie, non, parce qu'il y a une rivalité considérable au sein de cette entreprise, entre Cyril et moi, pour plein de choses, alors des choses qu'on ne peut pas forcément vous détailler, mais peu importe, il y a une vraie rivalité, et donc là, aujourd'hui, c'est important parce qu'il y aura un des deux qui prendra l'avantage.
Allez, c'est le moment du Mercacuiz, on accueille donc Quentin Guichard, notre graphiste et homme aux manettes du Mercacuiz. Quentin, bienvenue dans Mercredi Mercato. C'est pas qu'on t'accueille à contre-cœur, mais c'est qu'on a un petit peu peur.
Salut messieurs, ravi de vous retrouver. Effectivement, mais il n'y a pas de peur à avoir, Cyril. Surtout après ta belle prestation de la semaine dernière. Un partout dans cette belle confrontation que vous nous offrez depuis ce début de Mercato estival. Est-ce que vous voulez un petit rappel des règles?
J'allais te
un
le demander.
Quand des règles.
Je sais. Je lis en toi comme dans un livre ouvert, Jap. C'est pour ça. Bon. Les règles sont très simples. Je vous énumère la carrière d'un joueur avec des petits indices éparpillés par-ci, par-là. Le premier de vous deux qui trouve l'identité du joueur, marque un point dans ce Mercacuiz, un partout. Donc, je disais, balle au centre.
Alors, Quentin, on a décidé d'ajouter une petite règle cette semaine.
Ah, d'accord.
On a le droit à un coup à blanc. On donne un nom, chacun, avant même que tu donnes un indice.
D'accord.
Si c'est le bon,
c'est plus 5 points.
Des points.
Ouais, double
non, plus 2.
Plus 2 points, d'accord.
Est-ce que tu valides ces règles, Quentin?
Alors, je découvre en direct, ouais. en même temps que nos auditeurs, cette... j'ai l'impression qu'on prend un petit peu le concept en otage.
C'est vrai.
Mais,
c'est vrai.
Mais j'accepte volontiers cette règle, sachant qu'il y a environ 4 millions de joueurs professionnels.
Exactement.
Ce serait quand même pas de chance. Que vous
Alors, disiez. Julien, vas-y, je te laisse donner ton premier nom pour aujourd'hui.
Alors, pour moi, ce sera Kevin Berrigo. Si c'est ça, on multiplie
Kevin
par deux
Berrigo.
Et par deux.
Ouais, on est parti loin. Est-ce
que tu as bien dit Kevin Berrigo ?
Ouais. Ah. C'est pas lui.
Alors, c'est pas du tout ça.
Ah, ok, dommage. Alors moi, je vais rester dans le français, mais beaucoup plus d'actu. Romain Amouma.
Ah, pas du tout. Mais bien tenté. Mais ça
bon, allez,
pu.
C'est parti, Quentin. Fais-nous rêver.
Allez, c'est parti. En février 2012, je fais mes débuts avec Karlsruhe, mon club allez. Formateur. À l'occasion d'un match de deuxième division face au FC RZ Birgay, où je délivre deux passes décisives. Durant cette saison, je prends part à 12 rencontres de championnat. Toutefois, en fin de saison, mon club sera finalement relégué en troisième division à l'issue des barrages. En juillet 2012, lors de mon premier match dans cette division face au FC Heidenheim...
Donc là, on est en Détroit allemande, là, c'est ça hein.
Détroit allemande, bien
ah,
sûr.
Ouais, d'accord. Ouais.
Bah, d'accord.
C'est vrai que tu la regardes toutes les semaines, Julien, je crois, en plus.
Ouais.
C'est pour toi.
C'est vrai.
J'inscris sur coup franc les deux premiers buts de ma carrière professionnelle. Un mois plus tard, je suis transféré à Hambourg, mais reste dans mon club en prêt jusqu'à la fin de la saison. Quelques jours plus tard, je dispute mon premier match de Coupe d'Allemagne justement face à Hambourg. Karlsruhe l'emporte 4-2 et je délivre une passe décisive. À l'issue de cette saison, Karlsruhe remporte la troisième division et se voit ainsi promu pour la saison suivante, tandis que je termine au pied du podium des meilleurs buteurs avec 17 réalisations.
Attendez, ce qui est terrible, c'est que je suis concentré sur l'accent allemand de Quentin et pas sur la définition là.
Est-ce que le mot coup franc est important, Quentin ?
Peut-être bien.
Est-ce que c'est Branko Van Machin, le joueur de Toulouse ?
Il me faut le nom entier.
Van den Bomen.
Qu'est-ce que tu as dit, Julien ?
Van den Bomen.
C'est pas du tout ça.
Alors, il nous a mis sur une fausse piste.
Ok. Bon, 17 buts avec Karlsruhe. Ok, super.
Et il est élu meilleur joueur de la saison en 3ème division allemande, ce qui n'est pas rien.
Ouais. C'est en 2013, ça.
Exactement. Okay. Je rejoins donc Hambourg lors de l'été 2013. Je fais mes débuts sous mes nouvelles couleurs à l'occasion d'une rencontre de Bundesliga lors de la première journée face à Schalke. J'inscris mes deux premiers buts en championnat face à l'Eintracht Brunswick, contribuant à la victoire de mon équipe 4-0. Je fais mes débuts en sélection en septembre 2013, remplaçant Gökhan Töre contre Andorre. En février 2014, âgé de...
Çanakkoğlu. Non.
Non. C'est un Turc, attends.
Il est intéressant. Burak Yılmaz.
Attends, qu'est-ce que tu as dit, Cyril ?
Çanakkoğlu, Hakan Çanakkoğlu.
Ah, c'est une bonne réponse, Cyril.
Oui !
Ah, j'étais en train de chercher un champion.
Alors, ça
monde.
A été laborieux en termes de prononciation, ouais, bon, que ce soit de mon côté ou du vôtre, mais c'est bien Hakan Çanakkoğlu.
Voilà. Oui, bon, voilà. Alors, je m'excuse auprès des supporters toulousains parce que je sais à quel point leur star et leur junior local.
Tu peux t'excuser auprès des supporters turcs aussi pour la prononciation.
Oui, tout à fait. Bah, là, j'allais faire toute l'équipe nationale turque. Hein, on va pas
Moi, je m'excuse auprès de tous nos auditeurs allemands voilà, pour ce magnifique accent.
J'étais alors, la suite, c'était quoi ? Parce que, alors, Karlsruhe, Hambourg, ensuite, il y a un moment, il y a l'AC Milan, il y a l'Inter
alors,
Milan.
Juste avant l'AC Milan, il y a le Bayer Leverkusen.
Bien sûr, bah, c'est à Leverkusen qui commence à mettre des pralines.
Bien sûr.
Ok, et là, maintenant, il est à l'Inter toujours. Si
il est à l'Inter, donc, il a remporté son tout premier trophée de sa carrière, la Super Coupe d'Italie, en janvier dernier.
Donc, le coup franc était important.
Le coup franc était important.
Le coup franc était très important.
Et tu sais ce qui est encore
Bravo.
Plus important, Julien ?
Je crois
que
ça va.
2-1 désormais.
Bravo. Vrai. Ça, non, vraiment très belle. Là, très belle victoire. Encore plus belle que la semaine dernière.
Ouais, on a mis un peu moins de temps et c'était un peu moins gênant.
Ouais, sauf
alors,
sur la prononciation.
Ouais, non, mais bien joué, Cyril. Ouais. Et Jap, peut-être qu'on avait peut-être perdu la connexion aussi. T'avais peut-être pas, t'as peut-être pas tout entendu.
Non, mais je te dis, c'est ton accent allemand, moi, qui m'a.
Non.
J'étais focus. Ça m'a rappelé mes années lycée. Incroyable.
Alors, ça veut dire que tu ressembles à un prof d'allemand, Quentin. Je ne sais pas comment je le prendrai à ta place.
Ma foi, très mal.
On salue tous les professeurs d'allemand qui nous écoutent, même les professeurs de langue, tous
les
professeurs de France, même, tout simplement.
Mais oui.
Messieurs, il y a Adrien, qui est notre réalisateur, ouais. qui est au bout de sa vie, qui ne comprend plus le sens de cette émission. Donc, je propose qu'on s'arrête là. On vous remercie.
On va s'arrêter là. On va rappeler le score, donc. 2-1.
Le score est de 2-1 pour Cyril, bien sûr, face à Julien.
C'était pas obligatoire.
Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci Quentin, notre graphiste pour ce MercaQuiz, mais également pour tous les jolis visuels qui habillent l'émission Mercredi Mercato. Vous pouvez les retrouver sur eurosport.fr. Merci Adrien Yo à la réalisation de cette émission.
Merci Julien, à toi Cyril. Merci d'exister.
Merci, mais c'est sympa, toi aussi. Heureusement que tu es là, Julien. Heureusement que tu es là, surtout pour prendre des branlées au MercaQuiz. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. D'ici là, portez-vous bien. Et puis à la semaine prochaine.
Salut à tous, ciao. We'll be right back.